voix est libre. Au FM 93, voici Luc Lavoie.
Je suis arrivé à faire se déhancher Luc Lavoie.
Jusqu'à... Ah! Oh, oh, oh!
Avec cette chanson thème qui sert de d'hymne aux Blues de Saint-Louis qui ont réussi un exploit. De oui. La pire équipe qu'ils étaient, la pire équipe de la Ligue nationale en janvier, ils sont devenus finalistes de la Coupe Stanley.
C'est pour ainsi dire incroyable. Je veux dire, je sais pas comment dire, Depuis le début des séries, moi, c'est pas très compliqué. Je me suis trompé à toutes les séries. c'est simple. J'ai jamais gagné. J'ai arrêté de gager, là, parce que, écoute, tu viens de le dire. Saint-Louis, 2 janvier, pire équipe de la Ligue nationale. Finaliste de la Coupe Stanley. Pour la première fois depuis 1970.
Et après, ça te fait voler un match par un but très contestable.
Très, très, très contestable, en effet.
Après ça, ils ont gagné 3 suivants.
Ben oui, c'est incroyable, hein? Vraiment, là, cette année, c'est incroyable. Boston, personne ne les voyait là. Absolument personne ne les voyait là. Tout le monde aurait dit Washington, les tenants du titre, Pittsburgh avec leur super vedette. Tampa Bay, évidemment, qui a eu une des plus belles saisons de l'histoire de la Ligue nationale. On se retrouve avec Saint-Louis puis Boston. Et Saint-Louis, tu comprends? C'est une équipe que je peux pas dire que je les ai suivis beaucoup. Là, il a fallu que je m'éduque. Là, c'est qui ces joueurs-là? Il y en a quelques-uns, évidemment. Il y a David Perron. C'est un des nôtres, ça.
Ouais.
Mais il fait bien ça.
Puis les joueurs québécois, souvent, quand ils arrivent en finale, ils jouent au-dessus de leur tête.
Oui. Ils ont l'émotion.
Ça a quelque chose de plus intense pour eux autres.
Ah oui, parce que je pense qu'on a ça dans le sang. Hein? On a ça dans le sang. Mais quand même, si tu regardes Saint-Louis, là, t'as le fameux Tarasenko, ouais. Un marqueur de but incroyable. Tu sais, quand il y a un trou d'à peu près 4 pieds, là, ou de 2 pieds même à passe, la rondelle. Pietrangelo, leur défenseur, capitaine, il est là avec eux depuis des années, formidable. Et là, en plus, un gardien venu de nulle part, recrue, Jordan Binnington, il est dans sa zone, comme on dit, il est incroyable. Et là, ça commence lundi, ça. Hein? Ça commence lundi prochain. Les Bruins de Boston, c'est pas rien non plus. Écoute, t'as Patrice Bergeron, qui, d'après moi, est un des meilleurs joueurs de hockey au monde. Même si c'est statistique, c'est parce que c'est pas le même genre de joueur de hockey, disons, que Stephen Stamkos ou ces joueurs-là. C'est un joueur complet. C'est le numéro 1 de la Ligue nationale pour les mises en jeu. Je veux dire, son taux de réussite à la mise en jeu, c'est absolument incroyable. C'est le joueur par excellence en désavantage numérique, en avantage numérique. C'est un véritable joueur de centre. C'est un joueur d'exception. C'est pas pour rien qu'il a fait partie des grandes équipes Canada qui ont été aux Jeux olympiques, puis tout ça. Ensuite, t'as cette petite peste, pour ne pas dire cette petite merde, de Brad Marchand. il est bon. C'est incroyable.
Il est détestable.
Détestable à la limite. Là. C'est détestable, là. Au bout du bout, là, comme il essaye de blesser ce gars-là, des coups de hockey derrière la tête, des ci, des ça, alors que son talent devrait suffire à parler. Ouais. Je veux dire, le gars, c'est un ultra rapide, un fin finot sur la glace. Ils ont quelques autres joueurs aussi. Là, quand tu penses à Pasternak, c'est une grosse saison. Ça, Krejci, c'est l'expérience qui parle, qui a déjà gagné la Coupe cette année. Et évidemment, le géant des géants des géants, Zdeno Chara. Chara, il a perdu de la vitesse. Là, il en a perdu même beaucoup de vitesse. Mais écoute, c'est un pan de mur de 6 pieds et 9, 270 livres. Alors, quand tu t'en vas dans le coin de la bande avec lui, là, tu sors pas avec la rondelle. Ou quand tu t'en vas te poster devant le gardien adverse, là, t'es mieux de pas avoir Chara dans les parages parce que ça fait mal. Puis lui aussi, il peut être assez mesquin comme joueur de hockey.
Alors, il a failli arracher la tête à Pacioretty une fois, non?
Ben oui, et puis il s'est retrouvé. Il y avait une enquête criminelle et tout là-dedans. Hein? Alors, je sais pas qu'est-ce que ça va donner comme série. Je me demande même si je vais arriver à reprendre le fil. Là.
J'y vois deux avantages. D'abord, on vient de faire de la démonstration que c'est le cœur qui compte.
Oui.
Et pas seulement les chiffres sur papier. Deuxièmement, il y a bien des gens, en fait, j'ai entendu des complotistes dire « Batman, il veut que ce soit les Sharks de San Jose parce que San Jose, c'est un plus gros marché. » Puis là, les complotistes qui disent que le hockey est arrangé, je pense que ça serait bien.
Mais l'autre chose que ça démontre, Myriam, c'est la parité dans la Ligue nationale. Toute cette mise en place au milieu des années 2000 du plafond salarial puis les deux conflits de travail avait entre autres pour but de créer de la parité pour qu'il y ait un bon spectacle pour tout le monde, qu'on ne se retrouve pas avec des équipes pourries que quand tu y vas, sont toujours en train de perdre. Ben là, ça a tellement bien réussi que c'est presque devenu impossible de se bâtir une équipe gagnante. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas avoir en avant de toi. Tu sais, en tout cas, c'est de, mais en même temps, soyons positifs. Je ne pense pas que sur le plan technique, le hockey a jamais été aussi beau qu'il l'est présentement.
Ouais.
Je veux dire, la vitesse, la technique de ces joueurs-là, les athlètes qu'ils sont devenus, c'est peut-être le plus beau sport de spectacle au monde.
En tout cas, ça donne l'espoir qu'un jour le Canadien se qualifie.
et on sait jamais, peut-être les Nordiques vont se qualifier avant.
Ah. Pas sûr, moi je pense, je crois plus au troisième lien qu'au retour des Nordiques.
Le lien interrive alternatif.
C'est ça. Le LIA.
Le LIA. Bon, le troisième, elle croit plus au troisième lien.
Parle-moi de...
À force d'en parler, t'as fini par y croire.
Parle-moi d'un humoriste, la SQDC. Qui visiblement a eu des difficultés d'approvisionnement, qui vend son stock plus cher que le crime organisé, fait une sortie aujourd'hui dans les journaux, là, le gars payé 300 quelques mille, là, il fait une sortie dans les journaux pour dire que là, ils sont vraiment bons, là, ils ouvrent 7 jours par semaine, puis que c'est pas vrai qu'ils sont pas concurrentiels avec le crime organisé.
Écoute, quelle drôle de situation. La drôle de situation, elle vient du fait que quelle folie que d'aller demander à l'État d'être le commerçant du pot. C'est juste ça, ça n'a pas de bon sens. Et là, tel qu'il fallait le prévoir, ce dont le président, le gars que t'appelles celui qui est payé un peu plus que 300, ce dont il ne parle pas, c'est vont-ils faire des profits ou vont-ils devenir la seule entité de l'histoire à perdre de l'argent en vendant de la dope?
Ah, ils disent qu'ils devraient payer des redevances d'ici quelques mois, là.
Mais
tu sais,
la démonstration parfaite de ce que Luc dit là, de l'absurdité là, le PDG l'a dit, il dit le marché noir paye pas de taxes, pas de licences, ni d'avantages sociaux à payer à ses employés.
c'est les avantages sociaux, pour le rappel. Avec ton imagination, peux-tu en imaginer un là?
Faut payer un régime de retraite quand même là.
Alors, qu'est-ce que tu veux? On se pète les bretelles avec ce qu'on peut. Moi, j'entends de plus en plus de gens dire qu'ils ont été voir ça. Puis, tu sais, il y a eu l'engouement de l'automne là, quand ça a été lancé. Là. Puis après ça, ben là, les magasins ont quasiment fermé. Il n'y avait plus rien dans les tablettes. On s'est retrouvé dans une situation soviétique. Et puis là, ben c'est reparti. Puis moi, ce que j'entends dire par les grands consommateurs ou par les consommateurs réguliers, c'est que là où ils ont un avantage sur le marché noir, c'est la qualité.
Ouais.
Il paraît que la qualité des produits offerts, c'est bien supérieur à ce que tu trouves dans la rue, mais ça, qu'est-ce que j'en sais?
Ben, c'est standardisé, en tout cas.
Ben ouais, puis il paraît que... Je sais pas, en tout cas, je pense que...
Une des choses qui est rigolote dans ce qu'il dit, c'est que mon format typique est le 3,5 grammes. Je suis vraiment dans le prix et même moins cher que plusieurs sites Internet illégaux. Mais là, il ne me parle pas du pusher de coin de rue qui vient me livrer à domicile. Puis il dit, là où je perds ma compétitivité, c'est à mesure que le format augmente. Autrement dit, le plus gros format de la SQDC...
C'est le contraire du commerce, d'habitude.
C'est 15 grammes. Puis au marché noir, le 15 grammes... coûte le même au marché noir, 28 grammes, ça coûte le même prix que le 15 grammes à la SQDC.
Bon, donc, ça, c'est une façon d'être concurrentiel. D'habitude, dans le commerce au détail, j'ai toujours cru que quand tu achètes un gros format, un jumbo de Pepsi, ça coûte plus cher que d'acheter, moins cher que d'en acheter trois petits. As-tu raison?
Avec le crime organisé, oui.
Mais avec la vie, dans la vie, tu dis...
Avec la bouffe, là.
Pourquoi les gens vont chez, comment ça s'appelle, Costco? Parce que sur les quantités énormes, ils finissent par économiser eux autres. À la SQDC, ils ont trouvé moyen d'avoir un produit. Plus t'en demandes, plus ça coûte cher. Ce qu'il faut le faire.
C'est de toute beauté. Là, maintenant qu'ils ouvrent 7 jours par semaine, là, ils font une petite incursion dans les
médias. Ils en ont ouvert.
Ça va mieux, ça roule mieux, ça va bien.
Ils en ont ouvert un ou deux autres dans la région de Québec, là, je crois, hein, où ils sont sur le
pas
point.
Pas dans la région de Québec, mais il y a des places où ils n'étaient pas, où ils vont être. Là. Ils vont monter à 16 magasins au lieu de 14. Ouais. Tu en connais-tu beaucoup des gérants de boutiques payés 300 000 pour gérer 16 magasins, toi? Non, mais... Question saugrenue, comme
ben,
ça.
D'abord, c'est pas un gérant de boutique, là. Sois pas trop métier, quand même. C'est pas un gérant de boutique,
c'est
quand même.
C'est un PDG de boutique.
C'est un PDG d'une chaîne de boutiques dont le principal problème est l'approvisionnement puis le pricing. Ils savent pas que quand tu baisses le prix, t'en vends plus.
Ben, on a l'autre jour, Jean-Simon Buis a parlé avec un pusher. Mm-hmm. On l'appelait comme ça, hein?
Ah oui.
Bon, qui dit, regarde... Il dit, moi, je vends 5 piastres, eux autres, ils vendent 7. Je suis mort de rire. Mmh. Deuxièmement, moi, je suis capable d'offrir une expérience client à mon client. On dit, comment ça, une expérience client? Il dit, moi, quand mes clients viennent chez nous, je peux leur faire sentir les cocottes, puis les produits, puis eux autres, à SQDC, tout est dans vase clos. Donc, il n'y a pas d'expérience client. Le client ne peut pas voir le produit.
Ah non, mais même que j'ai vu l'autre jour quelqu'un qui arrivait, avait été fait ses petites emplettes à la SQDC, j'ai été frappé par le suremballage.
Oui.
Ben
oui.
Écoute, c'est emballé, emballé, emballé. J'ai vu le gars sortir un joint de pote. Là. Il y avait une enveloppe, défait l'enveloppe. Il y avait un tube dans ça. Il y avait du plastique sur le tube. Il fallait enlever le plastique. Ensuite, il fallait ouvrir le tube. Puis là, alors, ce que tu avais, là, c'était... C'est pire que le suremballage. Je veux dire, le contenu, était à peu près un dixième de tout ce qu'il y avait là. Tu comprends? C'était comme... Ouais. Puis il y avait des espèces de boîtes aussi. Moi, je trouvais que ça ressemblait à des pots de Noxzema.
Oui, exactement. Ouais, ouais. Exactement, c'est ça.
Oui, c'est vrai.
Puis là, il y a plein de plastique autour de ça. Puis là, la personne, il ouvre ça. Il y a presque rien là-dedans. Je veux dire, pourquoi prendre autant d'espace d'emballage? Il me semble que à l'heure du pacte de notre ami Dominique Champagne.
Mais parce qu'un jour, ils vont donner un contrat à un éco-conseiller pour voir comment ils peuvent réduire les emballages.
Moi, je pense que ça doit être peut-être déjà fait. Puis ils vont engager des consultants externes aussi pour valider les recommandations faites par le comité interne. Et puis ça, tout ça va se faire en parallèle avec les premières négociations de conventions collectives. Écoute, ces gens-là sont brûlés. Ils n'ont quasiment pas travaillé de l'année.
Le pusher que Jean-Simon a interrogé dit aussi que... Donc, lui, il voyait trois avantages qu'il avait par rapport à l'SQDC. Un, moi, j'ai une expérience client. Les gens peuvent voir le stock que je leur vends. Puis ils peuvent le toucher, puis ils peuvent le sentir. Deux, je vends moins cher. C'est quand même pas si mal. Et trois, j'ai... les clients viennent chez moi. Moi, je distribue partout. Tandis qu'à la SQDC, le fournisseur est obligé de faire le tour des 16 boutiques. Ils n'ont pas mis un centre de distribution.
Donc, c'est vrai? Oui, je savais pas ça.
Ce serait une partie du motif pour lequel ils ont eu de la misère en approvisionnement. C'est parce que pour les fournisseurs, c'était plus facile de faire affaire avec d'autres provinces que de faire affaire avec le Québec, parce que le fournisseur doit faire le tour des 16 boutiques parce qu'il n'y a pas de centre de distribution. Il ne peut pas dire, je m'en vais à Québec, je livre mon stock, puis eux autres vont s'occuper de distribuer dans leur succursale.
Ça n'a pas été changé, ça, c'est encore la vérité.
C'est ce que nous disait l'expert en botte.
Mais c'est invraisemblable, cette histoire-là. Je veux dire, si tu n'es pas capable d'avoir une centrale de distribution dans le commerce au détail, tu meurs, là. Je veux dire, si ça n'a pas de bon sens, là. En tout cas, je veux dire... L'État a décidé de se lancer dans le pot. Vive le pot, vive l'État.
Fume-en un, profite du soleil.